שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. שמאי nous enseigne la chose suivante. Fais de ta Torah quelque chose de régulier, de fixe, de suivi. Parle peu et fais beaucoup. Et reçois chaque personne d'une manière aimable. Donne à chacun, offre à chacun un visage agréable. Nous avons donc ici trois enseignements de Shammai. Le premier, fais de ta Torah, quelque chose de fixe, de régulier. Ça veut dire quoi? Fais de ta Torah quelque chose de fixe et de régulier. Alors d'abord, nous dit Rashi, étudie la Torah de manière régulière. Chaque jour et la majorité de la journée. Consacre à l'étude de la Torah la majorité de la journée. Un autre enseignement, nous dit Rashi, une autre explication. Fais au moins chaque jour un nombre minimum, au moins étudie au moins 4 ou 5 chapitres du Talmud, de la Mishnah et bien entendu évidemment de la Gemara. Nous disent les commentaires, nous dit le Bar Tenora, que le problème qui est posé ici est le problème de l'étude de la Torah par rapport au travail. On peut effectivement à la fois étudier et travailler. Pourquoi pas? C'est ce que la majorité des gens sont parfois essayent de faire. Le problème est de savoir où je mets l'essentiel. Quelle est ma priorité? Est-ce que l'essentiel, c'est l'étude de la Torah? C'est d'abord à l'étude de la Torah que je consacre mon temps et mon énergie, et seulement ensuite au travail, ou le contraire? C'est cela, Asé Torah Techa Keva, d'après nous dit le Bar Tenora. Le Bar Tenora nous dit Asé Torah Techa Keva, c'est-à-dire consacre l'essentiel de ton temps, de ton énergie, de tes efforts à l'étude de la Torah. Fais de l'étude de la Torah ta priorité. Et le travail, qui peut être éventuellement une nécessité, fais-en quelque chose de secondaire. Rabbi Nouyona nous dit également, dans la même optique, le travail, tu dois travailler que pour les besoins strictement nécessaires, pas au-delà. Le reste, qui constitue l'essentiel de ton temps, consacre-le à l'étude de la Torah. Je voudrais ici ramener trois commentaires très importants qui soulignent chacun un aspect différent de ce que nous venons d'enseigner ici. Tout d'abord, ce que nous dit Rabbi Nouyona. Rabbi Nouyona ici nous dit quelque chose de très important. Ça veut dire quoi? Asé Torah Techa Keva. Ça veut dire quoi? Comme nous l'avons dit, ça veut dire que l'essentiel de ton temps, l'essentiel de tes efforts doivent être consacrés à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah donc est une priorité. Mais Rabbi Nouyona ici quelque chose de très important. Imaginons, nous dit Rabbi Nouyona, quelqu'un qui ne ferait pas de l'étude de la Torah une priorité. Nous ne parlons pas ici de quelqu'un de mal, au contraire. Quelqu'un de bien, qui fait très attention à ne pas faire d'avérot, à ne pas faire de fautes, qui est très méticuleux dans la pratique de ses mitzvot, dans les actes qu'il fait chaque jour. Évidemment, nous dit Rabbi Nouyona, une telle personne n'ira pas au Guéhenom. Au contraire, sa place sera gardée au Olam Haba. Mais avec tout ce qu'elle aura sa place au Olam Haba, si elle ne l'a pas fait de l'étude de la Torah l'essentiel de son temps, si cette personne-là n'a pas fait de l'étude de la Torah sa priorité des priorités, alors, malgré qu'elle n'a jamais fait de faute et qu'elle s'est toujours attachée à la pratique des mitzvot, sa place au Olam Haba, même si elle lui a garanti, ne sera pas la même. Elle ne pourra bénéficier de la même place au Olam Haba dans le monde futur que quelqu'un qui a effectivement consacré à l'étude de la Torah l'essentiel de son temps et qui surtout a fait de l'étude de la Torah la priorité des priorités. Nous dit ici Raphaïm de Vologine, c'est le deuxième commentaire que je voulais vous ramener ici, quelque chose également de très important. Il nous dit que lorsque je travaille, le fruit de mon labeur, les richesses matérielles que j'accumule à ce moment-là vont aux autres. Alors que lorsque j'étudie la Torah, le fruit de mon labeur, le fruit de la Torah me revient d'abord et essentiellement à moi. Il nous cite notamment la Gemara dans Baba Batra qui parle de Mounbaz Ameler, du roi Mounbaz, qui dit effectivement que tout ce que ses ancêtres ont accumulé comme richesse matérielle, cela ne leur est pas revenu. Ils ont laissé ça pour d'autres, pour leurs descendants. Alors qu'au contraire, encore une fois, la Torah, celui qui en bénéficiera, qui en profitera socialement, c'est celui qui étudie. Ça veut dire quoi? C'est assez étonnant de dire que quelqu'un qui travaille, n'est-ce pas, et qui accumule des richesses, que le fruit de ses labeurs va aux autres, ou principalement aux autres. On pourrait dire que la vie de tous les jours nous offrirait plutôt l'exemple du contraire. Combien on voit de personnes riches, de personnes qui accumulent des fortunes, et puis qui sont d'abord, principalement, qui vivent nuit et jour dans le luxe, et qui semblent être en apparence la principale bénéficiaire de la fortune qu'ils accumulent. Donc ça veut dire quoi? Lorsque, effectivement, j'accumule des richesses, alors matériel, ça va aux autres. Et lorsque, au contraire, j'étudie la Torah, alors cela va d'abord et avant tout, et principalement à moi. Je crois que pour comprendre ce commentaire de Raphaël de Vologine, il faudrait le mettre en parallèle avec la Mishnah dans les Avot, dans le dernier chapitre des Avot, qui nous dit effectivement qu'un homme, lorsqu'il quitte ce monde-ci, n'est-ce pas, lorsqu'il décède pour aller dans l'au-delà, alors il n'emporte avec lui que sa Torah et ses Maasim Tovim, et les mitzvot qu'il a fait, et pas les richesses matérielles qu'il a pu accumuler dans cette vie-ci. Pourquoi? Quelle est la raison, nous dit l'Avot? L'Avot nous dit que la raison en vérité, c'est un pasouk, un verset dans les prophètes qui dit, ou Akadosh Baruch Hu nous dit, « Li akesef v'azahav ». Tout l'argent, tout l'or que vous pouvez accumuler reste à moi. À moi et à moi seul, pas à vous. Et nous explique ici le Maharal, dans les Avot, dans ce dernier chapitre, que effectivement, autant de richesses que je puisse accumuler, autant de richesses matérielles, d'argent que je puisse accumuler, cela reste extérieur à moi. Cela reste extérieur à ma personnalité. Cela ne fait pas partie de moi-même. Et donc finalement, si je peux en profiter, je n'en profite que d'une manière accessoire. Et finalement, comme cela ne fait pas partie de moi-même, donc lorsque la personne effectivement s'en va dans l'autre monde, eh ben, elle ne laisse tout cela derrière elle, parce qu'elle ne s'en va qu'avec ce que lui appartient vraiment. Et qu'est-ce qui lui appartient vraiment? La Torah. La Torah, nous dit le Maharal, lorsque je l'étudie, elle devient partie intégrante de moi-même. Elle devient partie intégrante de ma personnalité. Et c'est pour cela que lorsque la personne monte dans le monde futur, elle monte avec tout ce qui lui appartient réellement, tout ce qui fait partie d'elle, à savoir l'étude de la Torah, et les Maasim Tovim, c'est-à-dire les mitzvot qui accompagnent l'étude de la Torah. Et c'est là, nous dit Raphaël de Vologine, « Asé Torah Trakeva ».« Asé Torah Trakeva ». Fais de ta Torah quelque chose de suivi, de permanent, de manière à ce que ça devienne ta Torah, que ça t'appartienne, que ça puisse s'intégrer à toi-même et que tu puisses quitter ce monde-ci avec tous ces biens spirituels. Le Maharam Shik, lui, nous dit un commentaire qui apporte effectivement un point de vue un petit peu autre sur cet enseignement de la Mishnah. Nous dit le Maharam Shik, ça veut dire quoi? Asé Torah Trakeva. Fais de ta Torah à toi quelque chose de permanent, quelque chose de suivi. Ta Torah d'abord et le reste de la Torah ensuite. C'est quoi ta Torah, nous dit le Maharam Shik? La Torah dont tu as besoin pour la vie de tous les jours. Par exemple, un agriculteur. Un agriculteur qui travaille dans un champ, il a besoin de connaître les halakhot qui concernent la Shemitah, qui concernent le Maaser, qui concernent la Trouma, tout ce qui se rapporte au travail des champs. Ces halakhot-là qui le concernent dans la vie de tous les jours, c'est sa Torah. C'est sa Torah parce que ça le concerne et qu'il a affaire à ces halakhot-là dans le quotidien. Et c'est cela que nous dit le Maharam Shik. Lorsque tu étudies la Torah, fais d'abord de ta Torah, de celle dont tu as besoin pour les halakhot de tous les jours, de quelque chose de régulier, et étudie ensuite, bien entendu, le reste de la Torah, parce qu'à la fin, il faut savoir, ou au moins essayer de savoir, de connaître toute la Torah. Nous dit la Mishnah, parle peu et agis beaucoup. Le Rambam, dans son commentaire sur le Mishnayot, nous met en opposition deux personnages de la Torah, que l'on voit d'ailleurs apparaître dans la même paracha. D'un côté, Avram Avinu, et de l'autre côté, Ephron Achiti. Avraham Avinu, lorsqu'il vit passer des bédouins, lorsqu'il vit passer trois personnes sur son chemin, qui les invita chez lui, qui les invita à rester dans sa demeure, il parla peu. Il leur dit, écoutez, restez, venez chez moi, je vous donnerai à manger un peu de pain. Je vous donnerai un petit peu de pain pour vous restaurer. Et que fit-il? Que fit Avraham Avinu? Au lieu de leur donner un peu de pain, juste un peu de pain comme il leur avait dit, il leur donna de la viande et les meilleurs morceaux de la viande qu'il pouvait avoir chez lui. Il donna à chacun la langue du veau ou la langue de la bête, qui est effectivement le meilleur morceau, les gastronomes vous le diront, le meilleur morceau qu'on puisse effectivement goûter. Il parla donc peu, leur promit un peu de pain et leur donna beaucoup. Ephron Achiti se fit exactement le contraire. Lorsque Avraham Avinu voulut lui acheter Maharat Amarpela, n'est-ce pas, le champ à Hebron pour enterrer sa femme Sarah, Ephron Achiti lui dit, je te donne ce champ gratuitement, je ne demande rien, pas d'argent. Et que fit à la fin Ephron Achiti? Il prit de Avraham Avinu pas moins que la somme de 400 shekels, apparemment à l'époque c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui, et ne prit pas seulement 400 shekels, il prit de la meilleure monnaie, au ver le socher, nous dit Rachid, de la meilleure monnaie qui pouvait être alors à l'époque, de celle qui se recevait partout, que l'on pouvait changer partout. Ça, c'était Ephron Achiti. Il parla beaucoup et finalement fit très peu. Nous dit le Meiri, c'est cela la différence entre le racha et le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui parle peu et qui fait beaucoup. Le racha, c'est celui qui au contraire parle beaucoup, promet énormément de choses et puis finalement fait très peu. Comme on dit en bon français, la montagne ici accouche d'une souris. Pourquoi la différence entre le racha et le tzaddik, n'est-ce pas ? Se définit-elle par cette chose-là, à savoir que le racha, lui, parle beaucoup et fait très peu, alors que le tzaddik, lui, au contraire, parle peu et fait beaucoup. Pourquoi choisir justement cette différence-là pour distinguer le racha du tzaddik? On pourrait dire, comme nous le dit la Gemara, le racha, c'est celui qui fait beaucoup d'avérot, en tout cas plus d'avérot que de mitzvot, et le tzaddik, c'est le contraire. En vérité, les deux sont intrinsèquement liés. Ça veut dire quoi, hein? Quelqu'un, prenons donc d'abord l'exemple du racha, qui parle beaucoup et fait peu. Nous dit le Sabba Mikelem, ce qui différencie, ce qui distingue le racha du tzaddik, c'est la conscience qu'il a de lui-même. Le tzaddik, lui, est conscient, il a conscience de ce qu'il vaut réellement, et aussi il a surtout conscience de ses manques, il a surtout conscience de ce qu'il ne vaut pas. Il connaît ses limites, il connaît ses faiblesses. Il a cette clarté sur lui-même et aussi sur les autres que n'a pas le racha. Au contraire, le racha, lui, n'a pas conscience de ce qu'il est. Il croit qu'il est beaucoup plus que ce qu'il est en réalité. Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup. C'est pour ça qu'il promet plein de choses. Non pas nécessairement parce qu'il cherche à tromper les gens, mais parce qu'il croit effectivement qu'il peut faire tout ce qu'il promet. Or, pour pratiquer les mitzvot, mais pas seulement pour pratiquer les mitzvot, pour progresser dans la voie de la pratique, pour donner de la valeur à notre engagement dans le service que nous donnons à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir vraiment ce que l'on vaut. Quelqu'un qui pense qu'il vaut énormément, quelqu'un qui se surestime, quelqu'un qui pense qu'il est capable de faire beaucoup alors qu'en vérité ne fait que très peu, ne pourra jamais progresser. Il ne pourra jamais progresser dans les mitzvot. Parce que pour progresser dans les mitzvot, il faut savoir où j'en suis. Il faut savoir à partir de quelle base je dois progresser. Si maintenant, cette base ou cette ligne à laquelle je me situe, je la fixe beaucoup plus haut que là où je suis réellement, alors je ne pourrai effectivement faire aucun progrès. Parce que je ne sais pas vraiment où j'en suis. Et c'est pour cela, donc, que le tzaddik, lui, est d'abord celui qui sait où il en est et par quoi cela se traduit, par quoi cela se reflète? Par le fait justement qu'il parle peu et qu'il promet peu, parce qu'il est conscient de ses faiblesses, il est conscient que peut-être il ne pourra pas faire plus, en tout cas c'est l'impression qu'il a, et à partir de là, effectivement, il fera le maximum. Nous dire à Ephraïm de Volozhin, dans la même optique, que justement, lorsque je crois que je vaux beaucoup, n'est-ce pas? et que je pense que je vaux en tout cas beaucoup plus que ce que je vaux réellement, alors je ne suis pas non plus entraîné à progresser. Je ne suis pas vraiment stimulé. Je pense que j'ai déjà fait mon boulot sur cette terre et puis que finalement, je n'ai plus qu'à jouir, à profiter de tout ce qu'il y a autour de moi et puis que tout progrès serait finalement futile puisque je suis déjà très élevé. Au contraire, lorsque je suis conscient de mes faiblesses, lorsque je suis conscient du peu que je vaux, je ne dispose pas seulement d'une base réelle et d'une clarté qui me permet effectivement d'aller plus loin, mais je suis également stimulé à aller plus loin. La conscience que j'ai, l'impression que j'ai de finalement de ne pas valoir grand-chose me pousse effectivement à progresser. Et c'est pour cela que le tzaddik, lui, est celui qui parle peu et qui agit beaucoup. Le fait même qu'il parle peu reflète le fait qu'il est conscient qu'il ne peut pas faire grand-chose, en tout cas c'est l'impression qu'il a, et justement, à partir de là, il pourra toujours aller plus loin. Nous disent les commentaires, lorsque l'on nous dit qu'il faut recevoir chacun d'une manière agréable, n'est-ce pas, lui offrir un visage aimable, il ne faut pas seulement, on ne parle pas seulement ici d'une simple amabilité ou d'une simple politesse. Nous devons réellement nous efforcer de montrer à l'autre que nous sommes joyeux, que nous sommes contents de le recevoir, jusqu'à ce qu'ils réussissent à s'en convaincre. Même si on est fatigué, même si on n'a pas envie de le voir, même si finalement on préférait faire autre chose, on doit tout faire, pas seulement juste pour être aimable, mais pour créer l'impression, pour donner l'impression à l'autre qu'on est vraiment très content de le voir et qu'on n'a pas plus de grande joie que cela dans la vie. Nous dit les Avot de Rabbi Nathan, qui est également ramené ici par les commentaires, que quelqu'un qui donnerait énormément de cadeaux à l'autre, qui le comblerait de bienfaits matériels, mais qui ne le recevrait pas de manière aimable, plus encore, qui ne ferait pas cet effort de lui faire croire qu'il est content de le voir, c'est comme s'il ne lui avait rien donné. Au contraire, celui qui même, à la limite, ne donnerait rien, mais réussit à faire sur lui cet effort, de lui montrer, de lui faire croire qu'il est content de le voir, au point que l'autre en est réellement convaincu, c'est comme s'il lui avait donné énormément. Nous avons ici un enseignement très important qui touche peut-être à la vie de tous les jours. Très souvent, une personne, lorsqu'elle donne la tzedaka, lorsqu'elle fait un cadeau à l'autre, elle a l'impression qu'elle a fait le maximum, elle a l'impression qu'elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Et elle n'a pas l'impression qu'elle doive, en plus de cela, si déjà elle a donné un cadeau, qu'elle doive, en plus de cela, lui donner l'impression qu'elle est contente de faire ce qu'elle fait. Les sages nous disent tout exactement le contraire. Le cadeau, la tzedaka, tout cela est évidemment très très important. Mais si on ne donne pas avec le cœur, et si on ne montre pas, qu'on n'essaie pas de montrer à l'autre qu'on est content de lui donner, tout cela est réduit à néant. Pourquoi ? Parce que l'autre s'en va avec la tzedaka, avec le cadeau qu'on lui a donné. Mais il s'en va avec une mauvaise impression, avec un mauvais effet, avec l'impression terrible que finalement on ne voulait peut-être pas lui donner ce qu'on lui a donné. Et nous disent Chazal, c'est comme si on l'avait tué. C'est cela le sens des Chazal, nous ce qu'ils nous disent au niveau de l'hospitalité notamment, que lorsqu'on le reçoit quelqu'un, qu'on lui donne à manger et à boire et qu'on ne le raccompagne pas en dehors de la maison, c'est comme si on l'avait tué. Ça veut dire quoi ? C'est comme si on l'avait tué. Pourquoi a-t-on besoin de raccompagner quelqu'un en dehors de chez lui après qu'on l'ait reçu ? On lui a déjà donné tout ce qu'il voulait. Certains vous diront même, à la limite, que si on le raccompagne, c'est pour être sûr qu'il ne reviendra pas. En vérité, nous expliquent les Mashgichim quelque chose de tout à fait différent. Lorsque je raccompagne quelqu'un, en dehors de la maison, je lui donne l'impression, de plus de tout ce que je lui ai donné, que j'étais content qu'il vienne, que j'étais content de le recevoir. Et donc toute l'hospitalité que je lui ai donnée, le fait que je lui ai offert le logement, le fait que je lui ai offert la nourriture, à ce moment-là, cela prend toute sa valeur. Si au contraire, je ne me donne même pas la peine de l'accompagner, que je le laisse partir avec l'impression que je suis content qu'il s'en aille, alors encore une fois, tout ce que j'ai fait se réduit à néant. Rav Avraham Azoulay, dans son magnifique commentaire sur les Pirkei Avot, rajoute quelque chose d'important qui vaut ici la peine d'être ramené. Nous dit Rav Avraham Azoulay que cet enseignement-là accueille les gens de manière agréable, montre-leur, n'est-ce pas, un visage aimable. Cela est complètement lié à l'enseignement précédent que nous avons ramené tout à l'heure, à savoir lorsque l'on dit à quelqu'un « parle peu et fais beaucoup ». Encore une fois, Parle peu et fais beaucoup, ça veut dire, comme nous l'expliquait Raphaël de Vologine, que si tu parles peu et que tu es conscient finalement que tu ne vaux peut-être pas grand-chose, cela te permettra de progresser et d'arriver au plus haut sommet de la spiritualité. À ce moment-là, nous dit Rav Avraham Azoulay, le Yetzer Hara est tel qu'on pourra avoir finalement l'impression, qui pourrait être réelle d'ailleurs, que l'on vaut beaucoup plus que les autres. Et à ce moment-là, on pourra peut-être être amené à dédaigner les autres. Et c'est là, nous dit Rav Avraham Azoulay, que le Pirkei Avot, que la Mishnah, vient nous avertir. Elle nous dit, même si tu as cette impression que tu vaux plus que les autres, même si tu vaux effectivement beaucoup plus que les autres, il faut que tu reçoives l'autre avec un visage agréable, que tu le reçoives avec toute l'amabilité qui puisse être, comme s'il était ton égal, comme s'il valait autant que toi et que toi, tu valais autant que lui. Et surtout, n'essaie pas de t'enorgueillir en te disant que finalement tu vaux plus que lui. Fais tout pour ne pas lui donner cette impression. C'est cela, avec Mekabel Adam Besever Panim Yafot. Reçois les gens avec un visage agréable. Cela s'adresse, nous dit Rav Avraham Azoulay, au Tamidei Chachamim, à ceux qui ont réussi à atteindre les plus hauts sommets de la spiritualité. On les avertit ici de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil.